Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amenât, et lorsqu'il se fut approché, il l'interrogea en disant, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je voie. » Mes très chers frères, la semaine du dimanche de la Quinquagésime, puisque c'est aujourd'hui le dimanche de la Quinquagésime, l'Église nous impose les cendres sacrées qui nous rappellent que tirés de la poussière, nous retournons à la poussière. Ce sera le mercredi des cendres. L'homme naît, l'homme vit, l'homme meurt, et que reste-t-il de sa vie? Dans le monde sublunaire, tout est soumis au cycle de la génération et de la corruption. Tout naît et tout meurt. Qu'advient-il de notre âme immortelle, faite à l'image de Dieu? Mes très chers frères, tout passe, mais la charité seule subsiste. Et nous avons à voir, en ce dimanche de la Quinquagésime, plusieurs choses qui relatives à la charité. Nous avons dans ce dimanche la plus belle épître, si l'on peut dire, de toute l'année, puisque c'est l'épître de saint Paul, le 13e chapitre de la première aux Corinthiens, qui parle de la charité dans un discours d'une simplicité et d'une éloquence qui est absolument sublime. Et c'est la parole de Dieu, et nous devons nécessairement prêter l'oreille à ce qu'elle nous dit, à ce que l'Église nous dit, de peur de mal nous préparer pour commencer ce temps de carême qui va s'ouvrir dans quelques jours. Nous aurons donc plusieurs choses à voir. Nous verrons tout d'abord que pour se connaître soi-même, il faut le demander à Dieu. Et qu'il y a deux mots qui nous frappent, c'est l'aveuglement et les reproches de la foule, ce que symbolisent les reproches de la foule, nous le verrons. Deuxièmement, nous essaierons d'examiner brièvement les marques d'une véritable conversion. Et nous verrons dans quel but Dieu nous applique la rédemption méritée par son Fils. Et enfin, en troisième point, nous verrons que la charité seule rend les actions bonnes et méritoires. Et nous dirons quelques mots, nous verrons certaines choses sur la vanité des efforts opérés sans la charité. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.
Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est l'évangile qui introduit, si l'on peut dire, le temps du carême, ou plutôt, oui, le temps du carême qui se terminera par le temps de la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur au jour de Pâques, notre Seigneur dit à ses apôtres, dans cet évangile donc, qu'il monte actuellement à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux gentils. On se moquera de lui, on le flagellera, on crachera sur lui, et après qu'on l'aura flagellé, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais, est-il écrit, ils ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché, et ils ne saisissaient point ce qui leur était dit. Notre Seigneur Jésus-Christ prépare ses disciples aux derniers événements de sa mission, sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais, nous disent les auteurs, les apôtres de cette époque-là étaient encore grossiers d'entendement et ils étaient incapables de saisir les propos que notre Seigneur leur disait. Ils entendaient bien ce qu'il leur disait, mais ils ne saisissaient pas que tout ceci n'était pas une parabole, que tout ceci n'était pas une façon de parler, mais qu'il leur révélait véritablement ce qui allait arriver. Le Christ nous montre l'Évangile, fait donc un miracle afin de leur donner en quelque sorte le désir d'être illuminés. Et il y a dans les circonstances de ce miracle certaines choses très importantes pour notre vie spirituelle. Saint Grégoire Pape, expliquant ce passage de l'Écriture, nous dit ceci. Notre Seigneur arrive à Jéricho. Or, Jéricho signifie la lune. Et c'est pour indiquer que dans ce monde sublunaire, depuis la chute, Jéricho signifie le dépérissement continuel de notre nature, à tout point de vue, physique évidemment, mais aussi mental et donc spirituel. Tout décline quand l'homme est livré à ses propres forces. Il suffit de commencer à exister, il suffit de naître pour commencer à vieillir. Alors l'enfant devient adulte. Et l'adulte devient vieillard, Et puis après, c'est la mort. C'est cela que désigne Jéricho. Jéricho, c'est donc le monde déchu, c'est le monde d'ici-bas, c'est le monde sous la lune, qui est soumis, comme nous l'avons dit, au cycle de génération de corruption perpétuelle, de telle sorte qu'il n'y a rien de stable dans ce monde. C'est pour cela que notre Seigneur s'approche de Jéricho. Et il est dit, un aveugle était assis au bord du chemin demandant l'aumône. Saint Grégoire Pape nous dit que cet aveugle était assis parce que, assis près du chemin, parce que le Christ a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Mais, nous dit Saint Grégoire, pour être semblable à cet aveugle qui est assis au bord de la voie, c'est-à-dire près de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut encore croire en lui. Et c'est pour cela que Saint Grégoire dit que quiconque ne voit point la clarté de la lumière céleste est un aveugle. Tous ceux qui n'ont pas la foi catholique, sont des aveugles. Qu'ils le veuillent ou non, même s'ils ont compris certaines choses, même s'ils sont capables de décrire en détail la foi des catholiques, ils n'ont pas la foi qui sauve. Et donc, ils sont des aveugles. Mais avoir la foi n'est pas suffisant, puisque cet aveugle avait bien la foi, puisqu'il était assis auprès de la voie, qui est notre Seigneur, mais que faisait-il? Il demandait l'aumône. Et Saint Grégoire nous explique que pour être assis donc sur la voie, il faut croire, mais si l'on néglige de prier que la lumière de la vérité nous soit rendue, alors on ne demande pas l'aumône. Et c'est pour cela que pour Saint Grégoire et donc pour l'Église, cet aveugle de Jéricho assis au bord du chemin demandant l'aumône, c'est exactement la condition du chrétien, ou plutôt de celui qui est sur la voie du christianisme, ou du chrétien, disons, du chrétien qui est au début, ou qui est dans un nouveau commencement. C'est la situation dans laquelle il doit se trouver, de peur de ne pas pouvoir être exaucé. Il a beau avoir la foi, s'il ne demande pas la lumière, il ne l'obtiendra pas. Et comme il est à Jéricho, il périra, puisque c'est une ville maudite. Saint Paul, lorsqu'il a été terrassé sur le chemin de Damas, a passé plusieurs jours en jeûnant, à jeûner et à prier avant que le disciple que notre Seigneur lui a envoyé vienne et lui ouvre les yeux et le baptise. Il nous faut donc être comme cet aveugle, assis près du chemin par la foi, et demander l'aumône, c'est-à-dire implorer constamment Dieu de nous donner la lumière céleste. Sans cela, eh bien, on ne reconnaît pas son aveuglement. Quiconque, dit Saint Grégoire, quiconque donc reconnaît les ténèbres de son aveuglement, quiconque ressent qu'il est privé de la lumière éternelle, qu'il crie du fond de son cœur, du fond de son âme, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi ». Voilà ce que Saint Grégoire nous dit par rapport à cet aveugle de Jéricho. Il nous faut être assis auprès de la voie, qui est notre Seigneur, par la foi. Il nous faut demander l'aumône, c'est-à-dire supplier Dieu qu'il nous donne ce que nous confessons nous manquer. Et qu'est-ce que nous confessons? Nous confessons que nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles sur nous-mêmes, nous sommes aveugles à la lumière divine, et c'est pour cela que nous devons la demander à Dieu pour pouvoir l'obtenir. Mais, dit Saint Grégoire, donc, autant cet homme, cet aveugle, avait un problème qui était son aveuglement, sa cécité plus précisément, son aveuglement dans le point de vue spirituel, du point de vue spirituel, mais lorsqu'il se met à crier « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi », eh bien, ceux qui marchaient en avant le reprenaient rudement pour qu'il se tût. Mais il criait encore plus « Fils de David, ayez pitié de moi ». Saint Grégoire relève que cette foule qui nous fait des reproches, c'est en quelque sorte l'extériorisation, si j'ose dire, de notre aveuglement. Nous sommes aveugles, nous déplorons notre aveuglement et nous demandons à Dieu sa lumière. Mais il y a la pensée de nos péchés, il y a le souvenir de toutes nos fautes, il y a le souvenir de toutes les choses que nous avons aimées en dehors de Dieu, qui revient et qui s'oppose en quelque sorte à notre prise de conscience, à notre cri, à notre prière que nous faisons monter vers Dieu, fils de David, ayez pitié de moi. Donc nous avons des ennemis extérieurs, nous avons un ennemi intérieur qui est cet aveuglement, qui vient de notre nature déchue, et il y a ces ennemis extérieurs qui sont en même temps intérieurs. Bien sûr, ça peut être les hommes qui nous empêchent de recourir à Dieu, bien entendu, ce n'est pas exclu. Mais du point de vue intérieur, du point de vue mystique, c'est l'opposition des désirs charnels qui refuse la guérison. Car quand on a été guéri, mes très chers frères, il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, renoncer à soi-même et porter sa croix. Voilà pourquoi l'oraison d'aujourd'hui est très simple et très importante. Et il faut la prier, que nous fait-elle dire à Dieu, « Dans votre clémence, exaucez nos prières, Seigneur, délivrez-nous des liens du péché et gardez-nous désormais de toute adversité. » Délivrez-nous du lien du péché, c'est délivrez-nous de la cécité intérieure qui est la nôtre à cause de notre nature blessée. Et gardez-nous de toute adversité, c'est gardez-nous de cette foule qui voudrait nous décourager, tant en nous désespérant qu'en parfois en nous rendant présomptueux. La grandeur de nos péchés peut nous faire désespérer de la miséricorde de Dieu, et c'est une mauvaise chose, c'est un piège diabolique. Mais aussi, il se trouve que l'ardeur de notre prière peut aussi exciter la témérité de notre vieil homme, qui va en quelque sorte s'offusquer de ce que nous sortons de notre bien-pensance, de notre bien-portance, si vous permettez l'expression, pour demander à Dieu quelque chose que finalement, dont finalement nous n'avons pas tellement besoin, ou que dont d'autres ont plus besoin que nous. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce vieil homme qui est vexé d'avoir été découvert et démasqué et d'être montré pécheur, et vexé aussi que, à cause de lui, l'âme doive crier aussi fort à Dieu, même en passant par-dessus lui. Puisqu'il est dit, cet aveugle, étant repris rudement par la foule, criait encore plus. Ipse vero multo magis clamabat. On voit que plus on le faisait taire, plus on criait contre lui, plus lui couvrait les cris de la foule en criant, fils de David, ayez pitié de moi. Voilà la condition, mes très chers frères, qu'il nous faut pour nous connaître nous-mêmes. Nous devons nous connaître nous-mêmes, c'est-à-dire savoir que nous sommes aveugles, et puis il faut aussi que nous ne fassions pas attention à toute cette foule de pensées qui, d'une manière ou d'une autre, de façon contradictoire souvent, veulent nous détourner d'implorer Dieu, veulent nous détourner de faire de pousser ce cri vers Dieu, fils de David, ayez pitié de moi. Combien de chrétiens seraient honteux qu'on les entende dire à Dieu, ayez pitié de moi. Combien de chrétiens qui sont à leurs propres yeux de bons chrétiens, eh bien, auraient honte d'être entendus dire à Dieu, fils de David, ayez pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient, on pourrait penser qu'ils ont fait des choses honteuses, qu'ils ont fait des choses damnables, condamnables, et donc on pourrait mal les juger. Évidemment, vous allez dire, cet aveugle n'avait pas grand-chose à perdre, puisqu'il était déjà aveugle, c'était un mendiant. C'est pour cela que nous avons honte, mes très chers frères, de nous reconnaître mendiants face à Dieu, puisque nous avons une certaine idée de notre dignité, et certes, le chrétien a une immense dignité, mais ce n'est pas la dignité du vieil homme. Et le vieil homme ne veut pas être pris en flagrant délit de reconnaissance de son aveuglement et de prière instante à Dieu. Voilà comment on commence une véritable conversion. Quand on se reconnaît aveugle, dépourvu de la lumière divine, lorsqu'on s'approche de la voie qui est notre Seigneur, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas la voie dans d'autres religions, dans des religions fausses et démoniaques, mais que l'on se tourne vers l'Église, que l'on reconnaît son aveuglement donc, et que l'on ne prête pas l'oreille à toutes ces pensées qui combattent notre prière, qui combattent notre humilité, qui combattent cette conscience que nous avons que nous sommes entièrement dépendants de Dieu et de la grâce du Christ pour notre vie éternelle et pour notre salut. Les marques d'une vraie conversion, donc, mes très chers frères, nous les trouvons dans l'épître de saint Paul. La marque d'une vraie conversion, c'est, en un mot, la pratique de la foi, de l'espérance et de la charité. Nul ne peut être chrétien s'il n'a pas la foi, l'espérance et la charité. Et la foi, l'espérance et la charité sont des vertus théologales qui nous sont données par le baptême. Bien sûr, nous pouvons avoir une amorce de foi, une amorce d'espérance et peut-être même une amorce de charité avant le baptême dans la mesure où nous correspondons aux grâces excitantes qui nous attirent vers Dieu d'une façon efficace. Bien sûr, il y a comme quelque chose qui prépare, quelque chose qui en est déjà la première manifestation. Mais tout ceci doit culminer dans le baptême. On ne peut pas dire « j'ai fait une expérience avec le Christ, j'ai compris que le Christ, sans sa grâce, je ne pouvais pas aller au ciel, maintenant le baptême, je n'en ai pas besoin ». Le baptême est absolument nécessaire pour être sauvé. Maintenant, la foi et l'espérance, malheureusement, peuvent être singés par les chrétiens. Il n'y a que la troisième, c'est-à-dire la charité, qui ne peut pas être singée, ou en tout cas pas très longtemps. Et elle en est donc comme le témoin, elle est le témoin des deux premières. La foi et l'espérance, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de croire tout ce que l'Église nous enseigne, parce que Dieu ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Et ensuite, l'espérance, c'est le fait d'espérer tous les biens que l'Église nous promet. Et l'espérance est particulièrement excitée par les béatitudes qui nous montrent quelle est la récompense de toutes nos peines, de toute notre pénitence ici-bas. Donc, nous pouvons avoir l'espérance, mais par présomption, en nous disant que nous ne faisons rien, même si nous ne faisons rien ici-bas, nous aurons quand même la récompense au ciel. Nous pouvons avoir la foi sans que cela se manifeste par des œuvres, et donc nous avons la foi au même degré que les démons. Et encore une fois, les démons sont tout à fait orthodoxes quant à la foi. Ils n'ont aucune raison d'être hétérodoxes ou hérétiques. Un démon inspire l'hérésie, mais il n'est pas hérétique lui-même. Il sait très bien la vérité, il connaît très bien la vérité. Eh bien, Saint-Jacques nous dit que si nous avons la foi sans les œuvres, notre foi ne vaut pas plus que celle des démons, et elle est morte. Or, la charité est quelque chose qui ne peut pas mentir. D'ailleurs, c'est la chose la plus solide, la plus forte, la plus durable, puisque la foi et l'espérance demeurent, mais la charité est plus grande. La charité peut se singer jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas se tromper, ni tromper son prochain, ni encore moins tromper Dieu, sur la charité. On peut dire que les caractéristiques de la charité sont à l'opposé de la nature déchue. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'aveugle qui est au bord du chemin, certes, qui crie, certes, mais qui est à Jéricho. Et ensuite, vous avez à Jérusalem, le temple de Dieu, dans lequel eh bien, Dieu reçoit ses adorations. Donc, les caractéristiques de la charité sont à l'opposé de la nature déchue. De telle sorte que la nature déchue peut, jusqu'à un certain point, singer la charité. Évidemment, tout se singe. La seule chose, très rapidement, on va voir que ce n'est pas la charité. Par exemple, quand un hérétique va jusqu'à la mort inclusivement pour soutenir son idée, eh bien, nous voyons que ce n'est pas de la charité. Pourquoi? Parce que la foi lui fait défaut. Ce n'est pas la foi de l'Église. Donc, il se trouve que c'est une fausse charité. C'est bien malheureux, mais c'est comme ceci. Vous voyez, nous pouvons voir quelqu'un qui a beaucoup de foi, qui fait toutes sortes d'œuvres qui appartiennent à la charité, mais qui désespère de la bonté de Dieu, et qui est dans un désespoir absolu, de telle sorte que, en quelque sorte, il ne croit pas qu'il sera sauvé. Donc nous voyons que, quoi qu'il ait la foi, c'est-à-dire qu'il soit catholique, et qu'il fasse des œuvres bonnes, qui relèvent de la charité, son désespoir qu'il affiche en tout lieu, et qui le pousse à être cynique, montre que, en fait, ce n'est pas la charité qu'il a. Et s'il a la foi, c'est juste par défaut d'autre chose. La charité est véritablement le témoin qui atteste que notre foi et notre espérance sont authentiques. Or, la charité est à l'opposé, les caractéristiques de la charité sont à l'opposé de la nature déchue. Plus précisément, la concupiscence est l'exact inverse de la charité. Qu'est-ce que la charité? La charité, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Qu'est-ce que la concupiscence? C'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. C'est une formule de notre Père, bien sûr, que nous connaissons bien, tout le monde la cite, c'est très bien, mais prenons-nous conscience de ce que cela signifie. Au commencement, l'homme ne balançait pas entre les deux. L'innocence, qui était sa caractéristique, excluait la concupiscence. Il n'avait donc aucun amour de soi puisqu'il était entièrement ordonné à Dieu. L'homme, dans l'état d'innocence, n'avait pas à combattre la concupiscence. La concupiscence n'existait pas. Ce n'est que l'homme, lorsqu'il s'est choisi lui-même dans un acte de volonté, qu'il a entraîné en lui-même un désordre, de telle sorte que ce désordre, en retrouvant un certain ordre, parce que tout désordre est un ordre contraire à l'ordre, eh bien, en retrouvant un certain ordre, il est apparu que l'amour de soi est devenu, a tenu la place dans cette nouvelle situation, a tenu la place de l'amour de Dieu qui tenait jusqu'à présent la place dans le cœur de l'homme. Nous devons bien comprendre que l'homme au début n'avait pas le choix entre la concupiscence et la charité, il était entièrement mu par la charité, de telle sorte qu'il ignorait totalement la concupiscence qui n'existait pas encore. Encore fallait-il qu'il soit enraciné et fondé dans la charité, comme dit saint Paul. Évidemment, l'homme était parfaitement ordonné dans le paradis terrestre, mais malheureusement, il était encore en temps d'épreuve, dans un temps de probation, malheureusement pour lui, de telle sorte que, hélas, il a fait le mauvais choix au moment de l'épreuve, et il s'est choisi lui-même plutôt que Dieu, entraînant le péché originel et tout ce que nous savons. La chute, si on peut dire, la chute a donné lieu à un nouvel ordre du monde, si j'ose dire, vous voyez, ce n'est pas nouveau, un nouvel ordre du monde où l'homme est spontanément poussé à s'aimer soi-même. Or, lorsque l'homme s'aime soi-même spontanément, et c'est exactement l'expérience que nous faisons dès que nous naissons, il agit d'une façon contraire à la nature. Pas forcément dans le sens étroit, restreint du terme, auquel on entend aujourd'hui, mais il agit d'une façon contraire à sa nature. Sa nature a été créée au début, a été formée au début, pour être pour Dieu, pour vivre à la gloire de Dieu. Désormais, il vit en suivant sa propre volonté, son propre amour, de telle sorte qu'il agit contre sa nature. Or, mes très chers frères, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous restitue la force de suivre notre nature propre, qui est d'être pour Dieu. Donc, si le péché originel n'avait pas été une si grande catastrophe qu'il l'a été, la grâce du Rédempteur nous permettrait simplement de revenir à la pratique de ce qui est le propre de notre propre nature, un petit peu comme quelqu'un qui s'est cassé la jambe, qui au bout d'un certain temps la jambe guérit, il n'a plus besoin de ses béquilles, on lui enlève son plâtre et il peut marcher comme avant. La nature humaine est beaucoup plus grave qu'une jambe cassée qui finit par se remettre, si Dieu veut. La nature humaine est un véritable désordre qui a fait de l'homme non pas tellement un malade qu'un monstre, non pas tellement un malade qu'un mort. Il y a la proportion entre la vie que nous menons aujourd'hui, de ce côté-ci de la chute, et la vie que menaient nos premiers parents dans le paradis terrestre avant la chute, n'est autre que la différence entre la mort et la vie, entre un corps mort et un corps en vie. C'est la grande différence, et vous voyez, ce n'est pas une différence qui est négligeable. Dieu, par le sacrifice de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rend la force de suivre notre nature. Or, pour nous, qui sommes déjà habitués à notre nature, et même le tout petit enfant est déjà habitué à sa nature, puisqu'il ne fait que descendre d'une longue suite d'êtres dégénérés, cette force de suivre notre nature se manifeste, en tout cas aux yeux de l'homme déchu, comme une crucifixion de la chair. C'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait marché à quatre pattes toute sa vie, et auquel on apprend à marcher droit, comme un homme digne de ce nom doit marcher. Le problème, c'est que ses genoux sont complètement ankylosés, son dos n'arrive pas à se redresser, et donc, d'une certaine manière, pour revenir à la pratique humaine normale, il faut le mettre dans des machines, il faut lui faire faire des exercices qui lui semblent une sorte de torture. On torture ses genoux, on torture son dos, on torture ses bras, on torture ses mains, non pas pour lui faire du mal, mais pour le remettre à niveau de la dignité humaine. L'homme n'est pas fait pour marcher comme un chien à quatre pattes, il est fait pour marcher debout comme un être à l'image de Dieu. Pour le pécheur, pour l'homme déchu, Eh bien, il s'agit de la même chose. Il s'agit d'une chose semblable. C'est-à-dire que il lui semble qu'on le prive de ce qui fait sa nature propre, alors qu'on le prive justement de ce qui l'empêche de vivre selon, conformément à la nature que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire une nature qui est faite pour Dieu, uniquement faite pour Dieu, pour vivre à sa gloire. C'est pour ça que dans le graduel, il est parlé de la libération que Dieu accomplit. Vous êtes le Dieu qui seul accomplit des prodiges. Vous avez manifesté votre puissance parmi les peuples. Vous avez d'un bras puissant libéré votre peuple, les enfants d'Israël et de Joseph. Cette libération n'a qu'un but, qui est la gloire de Dieu. Tout effort que l'on fait pour réduire en soi l'égoïsme, que l'on prend, qu'on confond souvent à tort avec la concupiscence, eh bien, tout effort que l'on fait en soi pour réduire en soi l'égoïsme, qui n'a pas pour fondement la soumission à Dieu et l'amour de Dieu, est inutile pour le salut. Vous allez dire, il faut faire une distinction. Il y a des choses qui sont inutiles pour le salut, et puis il y a des choses qui sont utiles pour la société. C'est vrai, d'une certaine manière. C'est vrai qu'on ne demande pas à tout le monde, dans la société normale, dans la société chrétienne, on ne demande pas à tout le monde d'être absolument un saint, ou même d'être très pratiquant, d'être très, très pieux. On lui demande de s'abstenir du mal et de faire le bien au moins par défaut. Comme ça, il n'empiète pas sur son prochain. Le problème, c'est que la modernité se contente parfaitement. C'est Kant qui dit que, comme vous le savez, ma liberté s'arrête là où commence la liberté du prochain. Et pour étrange que puisse paraître inapplicable en réalité, que puisse apparaître cette formule, elle est quand même empiriquement assez commode, de telle sorte que tout le monde la cite et tout le monde fait attention de ne pas trop marcher sur les pieds de son prochain. Et c'est ainsi que la société moderne survit en quelque sorte. C'est une monstruosité et pourtant, ça fonctionne. Le problème, voyez-vous, mes très chers frères, c'est que d'une manière ou d'une autre, la charité est tellement fondamental que si l'on n'agit pas en se soumettant à Dieu, ne serait-ce que par défaut, et sous la contrainte en quelque sorte de la société qui nous y oblige, alors, d'une manière ou d'une autre, la concupiscence va se manifester et il n'y a plutôt aucune raison qu'elle ne se manifeste pas. C'est pour cela que, par conséquent, la société en pâtira tôt ou tard. Lorsque l'on admet la doctrine en quelque sorte de la double bonté, de la double justice, il y a une justice méritoire qui est vue par Dieu, le Dieu le Rédempteur, et il y a une justice simplement factuelle, matérielle, qui est vue par la société. Eh bien, lorsque on distingue ces deux et qu'on admet que les deux sont radicalement séparés, alors la société en pâtit tôt ou tard. C'est pour cela que, mes très chers frères, je vous le dis, il n'y a pas de restauration possible sur une base naturelle. Parce que si tant est qu'une restauration peut se faire sur une base purement naturelle, nous allons voir très rapidement exactement les mêmes symptômes de corruption que présente la société moderne se manifester. C'est absolument mathématique. La charité, c'est la rectification de la nature par celui-là même qui l'a créée pour lui. Sans la charité, l'homme n'est qu'un animal qui passe et qui s'amasse un trésor de colère pour l'éternité. La charité pratiquée, la charité pratique, n'est pas, à strictement parler, la sainteté. La sainteté, c'est le comble de la charité pratiquée avec des vertus héroïques, à un niveau héroïque, certes. Mais la charité, c'est le fait d'agir pour Dieu, ne serait-ce que implicitement. La société traditionnelle, toute corrompue qu'elle puisse être, toute pleine d'abus qu'elle puisse être, et il ne faut pas nous cacher l'énormité des abus qui peuvent avoir lieu dans la société traditionnelle, la société traditionnelle néanmoins fonctionne d'une façon qui est implicitement ordonnée vers Dieu. De telle sorte que si l'on veut restaurer une société avec des catholiques et avec des gens qui ne sont pas catholiques, mais qui ont un minimum commun, ce minimum, cette base commune, qu'on appelle le bien commun ou toutes sortes de pensées sorties d'Aristote, plus ou moins hors contexte, eh bien, toutes ces choses-là, dis-je, font que le minimum commun n'est pas du tout le minimum commun, si l'on peut dire, le minimum de la société traditionnelle. De telle sorte que cette société-là ne sera jamais qu'une forme de société moderne comme une autre, avec la tragédie qui s'ensuit. Dans le trait qui suit le graduel, nous disons ceci: acclamez Dieu, terre entière, servez le Seigneur dans la joie, Et un peu plus loin, c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. C'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. La perspective d'une béatitude éternelle doit être notre seule joie, mes très chers frères. Voilà pourquoi nous devons servir Dieu dans la joie. Ça doit être notre seule joie. Le chrétien se désintéresse de tout ce qui ne procède pas de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il se défie de lui-même, c'est-à-dire de tous ses actes, de tous les actes et de tous les désirs du vieil homme. Il y a bien des choses, et nous aurions fort à dire là-dessus, que le vieil homme peut désirer, et qui sont stériles, et qui sont mauvaises et rejetées par Dieu. Il y a bien des choses qui apparaissent comme le bien de l'homme, et pourtant qui ne le sont pas, qui ne le sont même pas d'une façon transitoire, qui ne le sont pas du tout. Car il y a des faux biens qui ont toutes les apparences du bien, et qui ne sont des faux biens que parce que, justement, le présupposé fondamental de la nécessité de la charité est nié ou négligé. Donc pour le chrétien, il faut qu'il ne mette sa joie que dans la seule perspective d'une béatitude éternelle, de la béatitude éternelle. Alors vous allez dire, est-ce que ça ne contribue pas à rendre le chrétien quelque peu morose ici-bas ? Morose, non, mais notre Seigneur dit, bienheureux ceux qui, vous qui pleurez, bienheureux ceux qui pleurent ici-bas, et malheur à vous qui riez. Donc le chrétien ne doit pas être dans la morosité, ce qui est une forme d'orgueil ou une forme de concupiscence, il doit ne mettre sa joie que dans la seule perspective de la béatitude éternelle. Il doit se défier de lui-même et il doit mettre sa joie dans la défiance de lui-même. Il doit mortifier le vieil homme et il doit mettre sa joie dans la mortification du vieil homme. De telle sorte que tout ce qui mortifie le vieil homme doit être pour nous comme le gage assuré de la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que seul la charité peut mortifier le vieil homme. Et le vieil homme ne peut pas se mortifier lui-même par orgueil. Certes, il peut mimer certains actes de pénitence, mais très rapidement, il va s'en lasser. Saint Augustin nous dit « La charité est la racine de tous les biens, comme la cupidité est celle de tous les maux, et la racine de tous les maux. » Voilà pourquoi, lorsque l'Église nous fait lire l'Épître de Saint Paul aux Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, cette épître provoque l'indignation et ou l'incrédulité du moi. Lisons cette épître, chacun pour soi, laissons l'Église la lire le dimanche de la quinquagésime, et voyons un petit peu, chacun pour soi, la réaction qu'elle provoque en nous. Certains vont être offusqués, de voir que finalement on affirme que le plus grand acte matériel de bonté envers le prochain ne vaut rien sans la charité. D'autres seront plutôt, disons, ironiques, en disant que si tout le monde devait pratiquer la charité, la société ne pourrait plus exister, ce qui est exactement le contraire de la réalité, de la vérité en réalité. D'autres s'avèrent des sages selon le monde. C'est-à-dire, ils vont dire, oui, mais ça, c'est un programme de vie idéal, utopique. D'une part, on ne pourra jamais faire que tout le monde agisse avec ce degré de charité. Mais encore une fois, mes très chers frères, il ne s'agit pas de forcer les gens à être charitables dans les actes. Et d'autre part, nous dit-on, il faut bien, surtout pour combattre les combats du Seigneur, les guerres du Seigneur, il faut bien, de temps en temps, violer quelque peu la charité, parce que sinon, bien des gens, se revendiquant de la charité, ne pourraient pas être atteints. Quel sophisme ! Quelle batterie de sophisme, mes très chers frères ! Quel sophisme ! Cette épître révèle le fond de notre cœur et notre disposition envers Dieu. Alors vous allez dire, enseignez-nous la bonne attitude lorsque nous entendons cette épître. La bonne attitude est la suivante, mes très chers frères. Nous devons nous asseoir auprès du chemin, reconnaître notre cécité et crier à Dieu. Vous voyez, nous devons nous asseoir auprès du chemin quand nous entendons cette épître. Comment ? En disant, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, je n'ai aucune opinion à avoir et surtout pas une opinion défavorable. Je ne peux n'avoir qu'une opinion une opinion favorable, en quelque sorte, une soumission. J'entends dire que sans la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, etc., etc. C'est vrai. Donc je m'assieds au bord du chemin. Et puis ensuite, je reconnais ma cécité. Je me dis c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est très difficile. Alors, que ça soit très difficile, c'est une constatation qui est... c'est le minimum que l'on puisse dire. C'est très difficile. En revanche, si l'on dit c'est impossible, alors on fait Dieu menteur. Parce que Dieu, par la bouche de saint Paul, nous dit que la charité est ceci, qu'elle n'est pas cela, etc. Il nous dit qu'aucune œuvre ne vaut sans la charité. Donc si nous disons c'est faux, Dieu est menteur. Parce que nous n'allons pas nous dire menteur en même temps que nous disons quelque chose. Donc disons plutôt que l'homme est menteur et que Dieu a raison et que tout ce qui est dit de la charité est vrai. Et vous allez dire, mais ce n'est pas vrai pour moi. Alors il nous faut reconnaître notre cécité, il nous faut reconnaître notre méchanceté, notre dureté de cœur, et dire, plutôt que de dire oui tout cela n'est pas praticable, il nous faut dire, mon Dieu, comment se peut-il que je sois si corrompu que la moindre des caractéristiques de la charité me semble quelque chose qui dépasse les forces humaines, en tout cas les miennes. Voilà comment nous crions à Dieu et que nous nous confessons pécheurs, aveugles, privés de la lumière divine. Nous reconnaissons que tout ce qui est dit de la charité est vrai, et nous reconnaissons que rien de cela n'est vrai pour nous, et nous en demandons pardon à Dieu, et nous voulons faire pénitence en pratiquant la charité justement. Vous voyez, c'est cela la bonne attitude lorsque nous sommes confrontés à cette épître, cette fameuse épître de saint Paul aux Corinthiens, à propos de la charité. Nous ne devons pas y résister. Si nous lui résistons, alors cela montre que nous sommes d'une manière ou d'une autre pleins d'orgueil, et l'orgueil, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Nous préférons mépriser cette épître pour sauvegarder, que sais-je, les intérêts d'une politologie correcte, d'une politique qui doit être accomplie en essayant d'éviter de se faire des ennemis dans notre camp, etc. Nous disons finalement, cette épître est une pure fantaisie, une pure folie. Elle est peut-être vraie pour les saints qui sont sur les images pieuses et au ciel, mais en tout cas pour l'homme, et vu le chrétien ici-bas, elle ne peut pas être mise en pratique littéralement. Nous nous trompons. Nous nous trompons tellement, mes très chers frères, que je vais vous donner un exemple pour nous montrer que tout accommodement par rapport au devoir de la charité conduit à la ruine. Toute action, quelque bonne qu'elle soit, si elle est accomplie pour un autre motif, ou si elle est instituée, vous allez comprendre, pour un autre motif que l'amour de Dieu, et de toute chose en Dieu, est stérile. Je vais vous donner un exemple. On dit souvent, si l'on mettait en pratique les préceptes de saint Paul sur la charité, on ne pourrait pas vivre, la société traditionnelle, une société ne pourrait pas vivre, parce que c'est en quelque sorte une sorte de désistement du droit qu'a chacun à vivre, disons, d'une façon qui soit correcte. Chacun, tous les membres d'une société ne peuvent pas être des martyrs ou ne peuvent pas être des saints. Alors voyons les choses autrement. Disons que dans la société traditionnelle, la charité, et certainement pas plus pratiquée qu'en société moderne, mais la charité structure l'ordre des choses. C'est-à-dire que tout est fait pour correspondre à la volonté divine, et c'est par la volonté divine même que cette société existe. C'est-à-dire que cette société n'a pas été faite après examen de la volonté divine. La volonté divine a manifesté cette société. Dès l'origine du christianisme, et même dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des rois, et c'est sous les rois que nous devons vivre, puisqu'il n'y a pas d'autre régime possible pour les chrétiens. Donc, la société traditionnelle est explicitement fondée sur l'ordre de la charité, qui veut que toute action soit rapportée à Dieu. Alors vous allez dire, évidemment, dans la société traditionnelle, tout le monde tire la couverture à soi, et quasiment personne, sauf les saints ou les justes, ne veulent véritablement vivre individuellement pour la gloire de Dieu. C'est vrai, mais la société est ainsi faite que tout y est disposé pour que tous vivent à la gloire de Dieu. Contrairement à la société moderne, où les choses quand même ne sont pas... Les individus peuvent vivre, en tout cas en Occident, peuvent vivre en chrétien s'ils le veulent, mais la société elle-même n'est pas ordonnée à Dieu. Donc, si la société est explicitement ordonnée à Dieu, alors la charité est sauve, et les individus doivent se conformer, selon leur état, à la charité. En revanche, lorsque l'on s'inspire de la société traditionnelle, et que l'on s'inspire des principes du christianisme, afin de faire des bonnes œuvres. Et donc que l'on fait des bonnes œuvres et qu'on fait des institutions sans qu'elles soient pour l'amour de Dieu explicitement, pas implicitement dans la petite, de façon secrète et dans l'esprit du législateur, mais explicitement, alors on se trompe. Regardez l'exemple de la sécurité sociale, instituée par le général de Gaulle, par exemple. Le général de Gaulle était une sorte de catholicoïde qui connaissait bien toutes sortes de choses traditionnelles. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu s'inspirer de la société traditionnelle où l'on prend soin, d'une façon assez générale, des malades. Il y a des hôpitaux, il y a des hôtels-dieux, il y a des ordres caritatifs qui s'occupent des malades. Le problème, c'est que nous sommes en République, nous sommes en démocratie, oui, mais enfin, c'est pas ça la question, nous sommes surtout en modernité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'inspirer de cette chose tout à fait remarquable dans le Christ, dans la société chrétienne, qui est le soin quasiment institutionnel, enfin institutionnel du moins dans les ordres religieux, sinon dans la société en tant que telle, mais de soin des malades. On va s'inspirer de cela, on va faire la sécurité sociale, qui est une sorte de laïcisation de l'aumône et une laïcisation de la charité pratiquée par l'Église. Ce ne sont plus des religieux, ce sont des infirmières, ce ne sont plus des hôtels de malades détenus par les ordres religieux, tel ou tel ordre religieux, mais ce sont des choses instituées par l'État, etc. Bon, pourquoi pas? C'est une sorte, on s'inspire. Donc on va dire, il y a quelque chose de grand dans cette institution de la sécurité sociale, parce que, d'une certaine manière, elle ressemble à quelque chose de chrétien, parce qu'elle a été inspirée par quelque chose qui ne se trouve que dans le christianisme. Le problème, c'est que où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Où est-ce qu'elle en est depuis longtemps? Elle a été entièrement ravagée de fond en comble, et si l'on peut dire, si même elle n'avait pas été ravagée de fond en comble, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui en abusent complètement, et qui, moyennant sa structure et sa nature juridique et institutionnelle, arrivent à trouver des failles pour tirer à eux la couverture et puis pour détourner l'argent. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a beau faire de grandes choses en s'inspirant des institutions du christianisme, mais la grande différence entre les deux, c'est que les institutions du christianisme peuvent durer, même s'il y a des abus, elles peuvent durer indéfiniment. Pourquoi? Parce que ce sont des institutions qui sont explicitement faites pour Dieu. Tandis que quelque chose qui est inspiré des plus grandes choses, des plus belles choses du christianisme, mais qui n'est pas explicitement fait pour Dieu, finira par se casser la figure, si vous me permettez l'expression, très rapidement. Pourquoi? Parce que sans la charité, il n'y a pas de bonne œuvre qui soit une véritable bonne œuvre, même du point de vue temporel. Vous voyez, la charité, à divers degrés, pour les individus, c'est une mortification de soi. Mais pourquoi mortification de soi? Parce que nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons être rectifiés et être réinstitués dans le caractère originel de notre nature. Nous pouvons suivre véritablement notre nature par la grâce du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ nous rend capables de vivre à la gloire de Dieu. Et pour les institutions ne prétendent pas du tout faire des saints, ça n'a rien à voir, mais elles sont instituées pour la gloire de Dieu. Tout ce qui s'inspire du christianisme est condamné à l'échec. Pourquoi? Parce qu'une œuvre, quelque bonne soit-elle, qui n'est pas faite explicitement et structurellement et institutionnellement en vue de la charité et dans le cadre de la charité, est stérile. Mauvaise. Donc j'ai pris cet exemple pour ne pas parler simplement toujours de la charité pratiquée par les individus, les chrétiens. Il faut aussi voir la charité telle qu'elle est dans les institutions, les structures des choses. Nous voyons qu'il y a une très grande différence entre ce qui procède de la charité et ce qui procède d'une inspiration de ce qui procède de la charité. L'une est faite pour Dieu et elle peut perdurer parce qu'elle a la capacité de se réformer sans cesse et de perdurer et elle est bénie par Dieu, tandis que l'autre a quelque chose de grand et de beau en soi, mais elle est quelque chose de stérile et quelque chose qui se casse la figure à tel point que aujourd'hui le gouvernement, comme vous le savez, est en train de réfléchir parce que il est en train de se dire que c'est ce genre d'institution-là ne finalement n'est pas viable. Revenons au trait et terminons, mes très chers frères. C'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et les brebis de son patriage et de son pâturage. Mes très chers frères, cessons de croire que la charité est un supplément d'âme aux bonnes actions de la nature. Entrons dans le carême avec deux grandes dispositions. Premièrement, la conscience de notre aveuglement sur nous-mêmes. Bien souvent, nous faisons des œuvres bonnes dont nous nous flattons et qui ne sont faites que pour notre amour propre et non pas pour l'amour de Dieu. Donc, la conscience de notre aveuglement sur nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'est un esprit de pénitence et les gémissements de l'âme sur elle-même. Asseyons-nous auprès de la voix qu'est notre Seigneur, reconnaissons-nous aveugles, dépourvus de tout bien, et demandons-lui l'aumône de sa grâce, et certainement, non seulement il nous la donnera, mais il nous donnera au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Rentrons dans le carême, mes très chers frères, avec ces dispositions de cœur, et nous serons certains que, si Dieu le permet et avec l'aide de sa grâce, nos prières ne seront pas vaines. Au contraire, notre carême sera fructueux avec l'aide de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.